6h02, mercredi 12 mai. Bonne journée, bienvenue au 98,5 avec un ciel qui demeure nuageux. C'est frais ce matin et c'était frais hier aussi. Hier, en début de soirée, je peux vous dire qu'à l'extérieur, là, on sentait pas que c'était tout à fait des conditions idéales pour le mois de mai. Mais en tout cas, ce matin, c'est 6. Ça va grimper à 17 degrés, soleil, nuages en alternance, avec 30 % de probabilité d'averse au cours de l'après-midi. Maximum prévu autour donc de 17 degrés, 8 pour la nuit prochaine. Demain, jeudi, encore là, nuages, soleil, faible risque d'averse. Il y aura peut-être une petite ondée, là, mais rien de majeur. Et il semble-t-il que le début de cette longue période ensoleillée, ben, c'est vendredi. On termine la semaine avec du 22-23 degrés. Et c'est le même scénario pour samedi. C'est la même chose pour dimanche. Là, on prévoit vraiment une très belle fin de semaine. Voilà pour ce qui est de la météo. Commençons ce matin par vaccin, confinement, santé publique. Comment vous dire? D'abord, au chapitre de la vaccination, on voit que les Québécois veulent se faire vacciner. Les sondages montrent, depuis peut-être 2 mois, une adhésion plus forte. Et non seulement les sondages, mais les prises de rendez-vous qui nous laissent croire que globalement, on va probablement atteindre la cible avant le 24 juin, ce qui est une excellente nouvelle. Et les plus jeunes, dont on craignait peut-être une certaine réticence à se faire vacciner, en tout cas prennent des rendez-vous. On le disait hier matin, je n'ai pas les chiffres de la journée complète, mais quand même 50 % là, en gros, des plus jeunes qui se sont inscrits. Puis vendredi, ce sera à partir de 18 ans, puis tout le monde pourra aller se faire vacciner, ce qui est, on le sait, une bonne nouvelle, un, puis deux, c'est essentiel. Parfait. De ce côté-là, ça va bien. Encore ce matin, j'ai regardé les chiffres aux États-Unis et ça plafonne pour ce qui est de la vaccination, autant pour ce qui est de la première dose que les gens qui ont reçu les deux doses. Actuellement, 46 % des gens ont reçu une dose et complètement vaccinés, c'est 35 %. Alors qu'au Québec, c'est faible en termes de vaccination, la deuxième dose. C'est vrai pour les gens de soins de longue durée. Là, il faut passer en RPA, puis évidemment, tout au cours du mois de juillet ou septembre, ben, les gens vont se faire vacciner. Maintenant, pour ce qui est du fameux plan de déconfinement, je comprends la stratégie, parce qu'il y a une stratégie dans ça, là, de brandir l'espoir, puis de dire « faites-vous-en pas, les chiffres sont bons et ça s'en vient ». Moi, je pense que Québec sait exactement ce qu'il va faire, mais il ne veut pas nous le dire maintenant, parce que si les jeunes vont se faire vacciner, il y a 2 ou 3 raisons. Ils veulent être en party, c'est normal, ils veulent se retrouver entre eux. Ils veulent également pouvoir aller à des événements, puis ils veulent sans doute voyager aussi un peu quand même. Retrouver le côté social, grégaire, là, d'une vie d'ado ou de jeune adulte. Et là, ce que Québec leur dit, si tu veux ça, fais-toi vacciner le grand. Ça passe par là. Si tu annonces trop rapidement que les mesures vont tomber, il y en a qui vont peut-être dire, ben, j'ai pas besoin, m'attendre, puis c'est 1 semaine ou 2, puis c'est 3 semaines, puis bon. Je pense que c'est beaucoup plus ça que l'espèce de jonglerie de la santé publique, c'est pas trop, par quoi on va commencer, puis là, on nous en donne un petit peu. Je trouvais ça un peu agace hier, pour tout vous dire. Et quand le docteur Arruda nous dit, de toute façon, pour ce qui est du couvre-feu, on a des sondages qui nous montrent que les Québécois n'ont pas de problème avec ça. Je comprends que pour des Québécois, le fait de ne pas sortir après 21h30, c'est pas un enjeu. Mais pour beaucoup de gens, puis pour beaucoup de plus jeunes aussi, c'est un enjeu. Fait que la décision, elle peut pas être basée, là, parce que ça fait quoi, 6 mois là, qu'on est en couvre-feu? Ça peut pas être basé sur un sondage. OK, on est prêt, nous autres, ça ne nous dérange pas, on pourrait passer notre vie en couvre-feu. Trouver ça assez... c'est pas le meilleur argument pour convaincre. Alors, ce qu'on nous a lancé, c'est que Jean de la Montérégie, de Lanaudière, des Laurentides, ben vous êtes pas loin de passer en zone orange. Mais on vous en dit pas plus. Il y a encore des foyers d'éclosion, il y a encore des endroits chauds au Québec où il faut serrer la vis. Puis on l'a vu dans le Bas-Saint-Laurent, on le voit dans le secteur de la Beauce, Granit, Lac Mégantic. Alors, on nous promet une espèce de plan qui va nous amener quelque part, tout doucement vers l'été, combiné avec la baisse des cas et également la vaccination. Alors, quand les gens me posent la question, m'écrivent en disant, d'après vous, c'est quand pour les gyms, c'est quand pour les... Je ne sais pas plus que vous, là. Mais c'est sûr que ça s'en vient. Puis, savez-vous quoi? Ça va être de plus en plus difficile, je pense, de convaincre les gens, là, quand on voit la vaccination. Puis là, je ne parle pas d'aller dans d'immenses rassemblements. De se faire dire que, techniquement, je ne peux pas être dans cours en train d'échanger avec mes enfants. Il faut que j'aille prendre une marche dans un parc parce que peut-être que je vais rentrer dans la maison puis qu'il ne faut pas que je... Ça va être dur à vendre, cela, là. Et plus il va faire beau, je regarde en fin de semaine, beau week-end ensoleillé, puis je l'ai vu en fin de semaine, là. Des restos à Montréal qui ont sorti les chaises, les tables. Officiellement, tu peux pas manger là, tu peux aller chercher de la bouffe, mais les gens prennent la bouffe, Fabo s'assoit là, puis ils mangent, c'est ce que vous voulez. La police va pas débarquer. Fait que je comprends la stratégie là, de com. On va essayer de convaincre les jeunes, là, puis comme ça... Avec le slogan « Tu veux faire un party, tu veux sortir avec tes amis, tu veux voyager, fais-toi vacciner. » Pas mal le message qu'on nous envoie. Entre-temps, l'Ontario met sur la tablette les vaccins AstraZeneca parce que les nouvelles études montrent que le taux d'effets secondaires, donc thrombose, là on parle d'effets graves, c'est pas nécessairement ce que c'était. Donc, selon les nouvelles données, il semble qu'on est passé d'un cas par 100 000 personnes vaccinées, à un cas sur 59 000. Et l'Ontario, après l'Alberta, dit « on touche pas à ça ». Au Québec, la question ne se pose pas vraiment parce qu'il reste peu de doses et que les fabricants Moderna, Pfizer, sont en mesure maintenant de fournir des quantités plus importantes. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont reçu le AstraZeneca puis qui ne sont pas bien, bien contents. Puis qui se disent, comment ça se fait que... Bon, réponse, vous aviez le choix de le prendre ou pas. C'était pas obligatoire. Deuxièmement, est-ce qu'à ce moment-là, c'était mieux de se faire vacciner? Est-ce qu'il y a eu des effets secondaires? Mais dans la mesure où les autres vaccins sont disponibles... Puis je comprends, là, puis je lis les courriels, là. Il y a du monde qui a l'impression de s'en être fait passer une vite. Ben du monde qui se disent, ben là, je l'ai pris, mais... Et arrive la question de la deuxième dose. Ou encore là, on n'est pas tout à fait clair, là. Mais il semble que... En tout cas, j'écoutais le docteur Arruda hier qui disait même que c'était une bonne chose de combiner deux types de vaccins. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont eu la première dose d'AstraZeneca. Et on comprend que pour la très, 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 très grande majorité des gens, là, la quasi-totalité, ça s'est bien passé, là. Mais quand c'est ta conjointe qui a la thrombose, quand c'est ta sœur, bien, on est au-delà des chiffres. Et c'est sûr qu'il y a des gens qui regardent l'Ontario, qui regardent l'Alberta, puis qui disent, bien, comment ça se fait que nous, on a reçu le vaccin en question. On va parler de Serge Bouchard, 73 ans, qui est décédé. Catherine va nous en glisser un mot tantôt. Claude Mayotte, un ami d'enfance, sera avec nous. Claude Mayotte, qui était bouleversé et qui nous amène, je trouve, ailleurs. On a eu beaucoup de témoignages de gens qui ont connu Serge Bouchard. Et c'est vrai, c'est l'auteur, c'est l'anthropologue, c'est le sage. On peut lui mettre toutes les étiquettes intellectuelles. Mais c'est quelqu'un qui a marqué, c'est sûr, le paysage radiophonique, évidemment de Radio-Canada, avec des émissions là où il abordait des thèmes. Et je disais tantôt, je pense que c'est vrai aussi, il était capable de nous parler de plein de trucs qui, à première vue, nous semblent d'une banalité totale, mais en même temps, sa passion, sa fougue, était capable de venir comme ça nous captiver. Et donc, Claude Mayotte sera avec nous tantôt. On a appris hier soir le décès de Bernard Lachance. Bernard Lachance, un chanteur qui s'était fait connaître parce qu'il organisait ses spectacles, il vendait ses billets, il était extrêmement dynamique. Il s'est retrouvé à l'émission d'Oprah Winfrey. Sauf que depuis quelque temps, il avait basculé dans l'univers des complotistes. Et donc, il est décédé. C'est sa sœur qui a partagé la nouvelle sur les réseaux sociaux. Il y avait un diagnostic de sida et par la suite, bon, il y a eu des vidéos, il y a eu plein de trucs sur le web. Il a expliqué qu'il avait décidé d'arrêter de prendre les médicaments contre le VIH. Il disait que la COVID, ça n'existait pas. C'était un complotiste là, intense. et qu'il prenait maintenant des produits naturels et qu'il avait trouvé des thérapies alternatives. Or, tout indique qu'il est décédé donc du sida après avoir arrêté la trithérapie. Et ce qui avait causé beaucoup de réactions parce qu'il arrivait à convaincre des gens. C'est toujours ça le problème avec des complotistes, là. Tu sais, il y a des gens qui sont pas d'accord avec les mesures, il y a des gens qui se posent des questions, puis c'est correct, ça. Mais quand tu sombres de l'autre côté, comme on dit, dans l'obscurité, puis que tu vois des complots partout, puis là, je voyais ce matin, puis Elisabeth va nous en parler tantôt, mais tu sais, des gens qui sont convaincus, là, tu sais, quand tu es dans l'univers des complotistes, bon, ben il a été assassiné, les compagnies pharmaceutiques l'ont drogué, c'est pour ça qu'il est mort. Là, on est dans, tu comprends? Puis d'autres, au contraire, qui sont là, puis c'est une grande libération, puis il sort de ce monde de fou dans lequel nous vivons. J'ai peu de choses à dire parce que ça me donne pas grand-chose d'essayer d'argumenter parce que tu peux pas argumenter avec des complotistes. Ce sont des évangélistes, des théories obscures et fumeuses qu'on retrouve sur le web. Puis il n'y a rien à faire avec ça. Puis bon, ça leur appartient, là. Mais le problème, c'est quand des gens comme ça peuvent influencer. Il est mort de quoi? Bien, il est mort de la maladie qu'il aurait pu combattre avec des médicaments. Puis qui prenait, puis qui avait quand même donné des résultats, mais là, il prenait des produits naturels pour lesquels il a payé une fortune en passant. Puis aujourd'hui, malheureusement, donc, il est décédé à l'âge de 46 ans. Maintenant, allons voir ce qui se passe du côté de la bande de Gaza d'Israël. Probablement les pires combats, les pires affrontements depuis les 7-8 dernières années. D'un côté, vous avez Israël qui mène des raids aériens, et c'est là qu'on voit l'espèce de déséquilibre de force. Israël avec, évidemment, des avions sophistiqués, de l'armement moderne, avec des cibles, et on visait hier des immeubles en hauteur sur le territoire de Gaza. Puis quand vous connaissez un peu Gaza, vous le voyez, là, le découpage des lieux, bien, ce sont des immeubles, évidemment, hauts, souvent à l'abandon, habités avec, je dirais, beaucoup de gens, beaucoup de familles, mais en même temps mêlés avec des leaders du Hamas. Et bref, on a ciblé, quand vous regardez les chiffres, il y a au moins 35 Palestiniens, ce qui inclut 10 enfants qui ont été tués par les raids. 203 autres ont été blessés, selon toujours les informations obtenues à Gaza. En Israël, 5 personnes, il y a au moins 2 femmes là, qui ont été tuées par des tirs de roquettes. Qui ont touché Tel Aviv, entre autres. Une centaine de personnes qui ont été blessées. Puis, mis à part l'escalade militaire, vous avez l'escalade verbale entre le Hamas et le premier ministre d'Israël, Netanyahou. Et là, on se demande, est-ce que ça va continuer? Il y a beaucoup d'experts qui pensent que ça risque de dégénérer et que dès que la nuit sera tombée, là, il y a le décalage horaire, ben, on pourrait voir, encore une fois, une autre flambée de violence. Je vous rappelle, il y a tout l'enjeu de cette partie qui est occupée et que le feu aux poudres, ben, c'est cette journée où on célébrait donc l'annexion du territoire sur l'esplanade des mosquées, de la mosquée, et donc des Palestiniens qui vont manifester, répliquent la police israélienne, et là, c'est comme un feu de paille, et ça donne malheureusement le bilan qu'on connaît, puis vous avez des appels au calme qui résonne un peu partout à travers le monde. Je vais vous parler du prix de l'essence ce matin. Vous l'avez remarqué, parce que c'est une de nos activités préférées, de surveiller le prix de l'essence, là. Je regardais les chiffres. Depuis janvier, il y a une augmentation régulière là, du prix, les données qu'on a de la régie de l'énergie. Puis je vous donne peut-être un aperçu là, pour Montréal. Au mois de janvier, c'était 1,06 $ le litre. On est passé en février à 1,13 $, en mars 1,23 $, et pour ce qui est du mois d'avril, puis disons le début mai, c'est 1,24 $. Alors c'est quand même une augmentation d'une vingtaine de sous le litre. Plusieurs vous diront, c'est le retour à la normale, ça avait chuté, mais là, la demande est quand même importante. Mais ça arrive avec un contexte là, où il y a une reprise, disons, de la consommation de l'essence, mais aussi des problèmes, on l'a vu, dans l'approvisionnement. Puis c'est toujours le même genre d'argumentaire qu'on nous présente. Hier, vous avez vu, dans plusieurs États américains, une espèce de panique qui s'est emparée des conducteurs qui sont allés faire le plein d'essence. Puis même, il y a des stations-service qui ont été vidées tellement les gens avaient peur d'une pénurie. Tout ça parce qu'il y a une immense pipeline qui demeure fermée en raison d'une cyberattaque. Et c'est un pipeline là, qui est le long, le Colonial Pipeline, là, qui est le long du Texas et du New Jersey. Et ça a entraîné des augmentations de 3 à 10 sous le gallon là-bas. Et c'est assez spectaculaire. Alors, il y a cette pression sur le marché de l'essence, d'une part, et aussi, on a vu hier, si vous regardez un peu les portefeuilles boursiers, ça a pris toute une débarque. Mais comme dit Pierre-Yves, quand ça descend comme ça, il faut l'observer ou pas regarder si ça nous traumatise, puis comme d'attendre finalement une certaine reprise. On va lui en glisser un mot tantôt. Finalement, le ministre Jolin Barrette va déposer sa nouvelle mouture de la loi 101. Donc, aujourd'hui, il y a eu une rencontre avec le premier ministre Legault et ils ont décidé de le faire. Alors, quelles seront les mesures, les outils pour renforcer le français? On sait qu'on ne va pas imposer le cégep aux allophones, donc le cégep francophone français, mais qu'on va probablement réduire les places dans les cégeps anglophones. Puis il y a d'autres mesures là, pour vitaliser le français. Et pour une des rares fois, probablement, il y a quand même une espèce de consensus. Peut-être pas sur les mesures, mais à tout le moins sur l'importance de mieux protéger le français, entre autres en milieu de travail. Un mot aussi sur la qualité de l'air dans les écoles. J'ai écouté la période de questions hier, l'opposition, Marois Risquier en tête, là, au sujet donc de la qualité de l'air dans les écoles, les questions adressées à Roberge. Sérieusement, là, d'abord, je comprends le président de l'Assemblée qui dit qu'il y a un langage parlementaire à respecter, mais je m'excuse, là, les réponses évasives de M. Roberge n'aident pas pantoute. Et n'importe quel citoyen qui regarde ça et qui essaie d'être le plus objectif possible là, se dit « lâchez-moi le spin ». Hier, ça ressemblait tellement à des phrases « préparer, rédiger, puis collaborons main dans la main, puis ayons à cœur la fin de l'année scolaire ». Pas ça qu'on veut savoir. On veut savoir quelle sorte d'études vous avez faites. Pas crédible, votre affaire. Puis t'as l'impression que c'est mensonge, erreur, manque de fait. Puis quand l'opposition soulève ça, ah ben là, c'est de la démagogie. Puis sérieusement, là, le ministre Roberge aurait intérêt à dire la vérité au complet plutôt que de se lancer dans un spin, comme on dit, pour sauver les meubles. Parce que ça ressemble surtout à ça. On apprenait également ce matin que le site de Radio-Canada... que la fameuse unité des soins palliatifs qui était dans le motel, là, ben ça, on a décidé finalement de déménager. On sait que le ministre Dubé ne trouvait pas ça nécessairement, comme on dit, le nec plus ultra. Alors, au cours des prochaines semaines, on envoie ça ailleurs. On ne sait pas où exactement, mais on sait que la presse avait rendu ça public puis ça n'avait pas de maudit bon sens. Il y a également le procès... de ce harceleur qui achalait et qui intimidait la sœur d'Eugénie Bouchard. Et donc, elle s'appelle Charlotte Bouchard. Le gars dans le dossier, c'est Danny Arsenault, donc accusé de harcèlement, de communication harcelante. De 2014 à 2017, le gars a 42 ans. Il variait le ton, là, de la douceur, de l'amour, à la haine, à la vulgarité, tout ce que vous pouvez imaginer. Elle a témoigné, la jeune Bouchard, en disant « Ce qui est épouvantable dans ça, tu sais pas de quoi il a l'air. Tu grand, il est-tu fou, il est-tu menaçant? Il changeait de compte quand je le bloquais. Finalement, je trouve que c'est un procès qui est important pour tous ces crackpots qui harcèlent des gens, et pas juste des gens connus, là, mais qui n'ont pas de vie, qui ont des problèmes de santé mentale, puis qui se défoulent sur les réseaux sociaux, puis qui dégobillent comme ça, à journée longue, en disant « c'est pas grave », puis quand ils se font attraper, qu'ils esquissent un sourire en nous disant « ben pourquoi vous vous énervez ?» Il n'y a rien là, puis c'est pas trop grave. Il y a l'Ordre des pharmaciens qui sévit contre 20 pharmaciens qui étaient les coéquipiers du roi de la pharmacie, Jonathan Yann Perrault, celui qui avait quoi, une vingtaine à l'époque de pharmacie, et qui lui-même s'est fait coincer, problème de consommation également. Alors, pourquoi? Ben parce qu'ils ont reçu jusqu'à 200 000 $ du grossiste McKesson entre 2013 à 2015. Il y avait une entente confidentielle entre Uniprix et McKesson, puis le pharmacien devait acheter 90 % de ses produits auprès de McKesson. Puis en échange de ça, il y avait une ristourne, un versement mensuel. Puis il y avait des ententes aussi qui impliquaient Apotex et d'autres entreprises. Et bref, après que le roi se soit écroulé, les associés, une vingtaine de pharmacies au total, se font également ramasser. Ça fait pas mal le tour de nos manchettes de ce matin. Il est 6h23. On te rend des Laurentides, Marc.